Bienvenue dans l'échange. Imaginez une cocotte minute où la soupape s'active en boucle, mais où la pression ne redescend absolument jamais. C'est exactement ce qui se passe en Bulgarie depuis 2021.
Ouais, 8 scrutins législatifs en 5 ans, c'est quand même du jamais vu.
Exactement. Donc, la question qu'on aborde aujourd'hui, c'est comment interpréter ce blocage perpétuel? Est-ce l'échec d'une opposition incapable de gouverner ou bien le prix nécessaire d'une purge démocratique? Moi, je suis convaincue que ce chaos apparent est enfin une phase de transition saine pour éradiquer un État totalement confisqué.
Et moi, je soutiens que ce rejet viscéral, totalement dépourvu de capacité de coalition, a précipité le pays dans un chaos institutionnel insoluble.
Alors, reprenons au début, si vous le voulez bien. L'éclatement d'avril 2021 est, pour moi, une vraie victoire citoyenne. Il fallait briser l'hégémonie de Bouïko Borissov, vous savez.
C'est certain que le ras-le-bol de la population était totalement justifié.
Ah oui, on parle d'un Premier ministre dont la faillite morale a été exposée à tous. Avec ses fameuses photos clandestines, le montrant endormi à côté d'une arme à feu et de lingots d'or. Face à une telle mafia d'État, refuser de s'allier au parti traditionnel, ce n'est pas une faiblesse, c'est une exigence absolue.
Une exigence morale, oui, peut-être, mais la pureté morale, ça ne fait pas tourner un pays. Savoir ce qu'on rejette ne donne pas un programme de gouvernement. Lors de cette élection le 2021.
Mais c'était un point de départ nécessaire.
Un point de départ qui a bloqué la machine, la percée inattendue de l'animateur Slavi Trifonov, avec plus de 17% des voix pour son parti contestataire, a vraiment injecté une logique anti-système inflexible, en exigeant des cabinets d'experts et en refusant la moindre compromission politique. Cette opposition a tout figé. L'intransigeance s'est transformée en impasse jusqu'à aujourd'hui, en 2026.
Mais comment s'allier avec eux ? Le système était gangréné jusqu'à l'os. Prenez l'incident déclencheur de juillet 2020. Christo Ivanov, un leader de l'opposition, tente d'accéder à une plage publique sur la mer Noire. Et
il se fait repousser physiquement. Oui, je m'en souviens.
Exactement. Repoussé par des vigiles privés protégeant de riches oligarques. C'est la privatisation littérale du domaine public, diffusée en direct devant 1 million d'internautes sociaux. Face à ça, le cordon sanitaire était vital, quoi. C'est comme démonter un moteur entièrement grippé par la corruption.
Je vois l'analogie, mais à quel prix?
Les pièces sont éparpillées, le pays n'avance plus pour l'instant, je vous l'accorde, mais c'était la seule façon d'arrêter le désastre.
Sauf que si vous ne remontez jamais le moteur, la voiture rouille sur place. Enfin, votre fameux cordon sanitaire a complètement émietté l'Assemblée en 6 blocs antagonistes. Vous avez les conservateurs de Borissov, les socialistes qui s'effondrent, le mouvement des droits et des libertés qui représente la minorité turque et... ces nouvelles formations anticorruption ?
Qui partagent au moins un diagnostic commun sur l'état du pays ?
Ouais, elles sont d'accord sur ce qu'elles détestent. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont aucune politique économique ou sociale en commun. Mathématiquement, toute reconstruction est impossible. Borissov arrive souvent en tête, personne ne s'allie avec lui, et le système tourne à vide. Les mathématiques finissent toujours par écraser la morale en politique.
L'arithmétique parlementaire est bloquée, d'accord, mais l'État tourne. Depuis 2021, la Bulgarie a été majoritairement dirigée par des gouvernements techniques, comme celui de Stéphane Yanev.
Des gouvernements d'expédition des affaires courantes, surtout.
Mais les impôts sont prélevés, l'administration fonctionne. Cela prouve bien que la démocratie bulgare encaisse le choc. La crise politique n'est qu'une toile de fond, en fait, pendant que la société cherche son nouveau modèle.
Alors là, je ne partage pas du tout cet optimisme. Regardez la gravité vertigineuse de ce qui vient de se passer cet hiver 2025-2026. Nous ne sommes plus dans une simple toile de fond, loin de là.
Vous parlez de la chute du gouvernement Zveliaskov, j'imagine.
Oui, le gouvernement tombe en décembre, sous la pression civile. Et ensuite, en janvier, c'est le président Rumen Radev lui-même qui démissionne.
C'est une crise au sommet, certes, mais de nouvelles élections sont prévues ?
Non, attendez, c'est bien plus grave que ça. En Bulgarie, la Constitution donne un rôle clé au président. C'est lui qui nomme ces fameux gouvernements techniques qui maintiennent le pays à flot. Quand Radev démissionne, il déchire le filet de sécurité constitutionnelle. Le pouvoir a été transféré légalement, pourtant. Le transfert à la vice-présidente Iliana Yotova, juste pour expédier un 8e scrutin en avril 2026, ce n'est plus de la continuité. C'est l'effondrement structurel de l'architecture institutionnelle du pays, quoi. Le système de secours a lui-même lâché.
C'est un test de résistance extrême, je le concède volontiers. Mais Pour moi, ce chaos apparent, même au plus haut sommet de l'État, témoigne surtout de la résilience incroyable d'une société. Une société qui refuse de céder aux compromissions d'antan pour fonder un véritable État de droit.
Et de mon côté, je maintiens que cette intransigeance tactique a transformé un élan réformateur qui était légitime en une crise de gouvernabilité mortifère pour le pays.
Ce qui est certain, et la décennie post-Borisov nous le prouve de manière assez flagrante, c'est qu'il est infiniment plus aisé de déconstruire un système confisqué que de bâtir une majorité de rassemblement. Reste à savoir si, lors du prochain scrutin, les électeurs bulgares parviendront enfin à remonter ce moteur politique.
Ou si la soupape de sécurité continuera de relâcher la pression dans le vide. Le terrain reste très incertain.
Absolument. Merci de nous avoir suivis et nous vous laissons tirer vos propres conclusions sur l'avenir du pays.